Bienvenue sur Numar. Numar, c'est le podcast de l'art au temps du digital. Nous interviewons des personnalités influentes du monde de l'art qui nous donnent leur vision du numérique dans l'art. Nathalie Viau, vous êtes la directrice de la Fondation d'entreprise Martel. Pourriez-vous nous présenter la Fondation d'entreprise Martel ?
La Fondation d'entreprise Martel, déjà, est située à Cognac, en Charente, dans la région de la Nouvelle-Aquitaine, dans l'ouest de la France. C'est une fondation qui est toute jeune, puisqu'en fait, légalement, elle a été créée en août 2017. Et nous avons ouvert cette fondation en juin 2018, physiquement. Après pratiquement une année et demie de préfiguration, nous avons commencé un certain nombre de projets d'exposition à l'extérieur du bâtiment, puisque celui-ci, édifié en 1929, avait été désaffecté depuis 11 ans. C'est-à-dire entre 2005 et 2016, il a été donc désaffecté pour des raisons de productivité, puisqu'en fait, c'était l'ancienne mise en bouteille de la maison Martel, qui, au bénéfice d'une usine beaucoup plus moderne, a désaffecté ce bâtiment. On est quand même dans une petite ville. Après, c'est une ville qui est connue dans le monde entier à cause de son produit, donc c'est toute l'ambiguïté, en fait, de la reconnaissance de Cognac aujourd'hui. Et ce que nous souhaitons faire à travers cette fondation, qui est une fondation pluridisciplinaire, tous les arts sont représentés ici, c'est de donner à Cognac une destination culturelle.
Qu'est-ce qu'une fondation ?
Une fondation, alors c'est toujours adossé à une entreprise, ou ça peut être aussi, parce qu'il y a plusieurs types de fondations. Nous, on est une fondation d'entreprise, après il y a d'autres formes de fondations. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes adossés à l'entreprise Martel, qui dépend de Pernod Ricard. Et c'est donc sa fondation d'entreprise culturelle qui est située sur son AOC. C'est-à-dire que, à la différence de la fondation Pernod Ricard, qui est située à Paris, alors que finalement le produit est plutôt fabriqué du côté de Marseille, la maison Martel a décidé de faire sa fondation sur son territoire de l'AOC. Donc, AOC, donc, c'est une marque déposée pour dire simplement que le cognac ne peut pas se faire ailleurs dans le monde que sur le territoire de Charente. Donc, ce bâtiment existe ici et il a vu évidemment la possibilité de réaliser cette fondation d'entreprise parce que c'est une décision qui est prise au plus haut niveau, puisqu'une fondation, ça coûte quand même de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'une fondation ? Je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'une fondation est un peu une vitrine pour une entreprise. C'est une façon aussi de parler de l'entreprise d'une autre façon. Mais pour moi, qui vient du milieu culturel, c'est principalement aussi pour redonner finalement les gains, une partie des gains que la société peut engranger au plus grand nombre. Donc moi, je le vois par un regard extrêmement vertueux. Je pense que toutes les entreprises ne sont pas obligées de faire des fondations. Celle-ci, en tout cas, cette entreprise qui nous concerne, a décidé d'en faire et elle en a plusieurs. Donc je pense que c'est pour le bien commun. Donc voilà, il y a effectivement la défiscalisation, il ne faut pas être naïf, mais il y a tout l'aspect aussi de redonner à la population, à tout à chacun, un bien commun qui est la culture.
Très bien. On sort d'une période compliquée. Comment le Covid a-t-il impacté votre fondation et comment se passe la réouverture, puisque depuis hier, à mon avis, vous êtes
rouvert. Oui, on a effectivement rouvert hier pour un public restreint et on ouvre aujourd'hui pour le grand public. Donc ça, on en est très heureux, évidemment. Alors nous, par rapport au digital, non pas que nous sommes pionniers, mais nous avons, dès l'ouverture de la fondation, pensé que le digital était important. Et dans la préfiguration de notre projet que nous avons remis à la Maison Martel en 2016, un étage entier était consacré au numérique et à la réalité virtuelle. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous est, éloigné. Donc, dès que la pandémie a sévi, en fait, on a mis en ligne tout ce qu'on pouvait mettre en ligne de ce que pouvait faire la Fondation. Nous avons, par exemple, réalisé tout le projet digital pour les littératures urbaines, qui est un festival de littérature à Cognac, qui existe depuis très longtemps, qui a été initié par Jean Monnet, le fondateur de l'Europe, qui est né en 1888 à Cognac. Et c'est quelqu'un qui était important pour la littérature, évidemment, et pour la formation des langages en Europe. Et nous avons décidé, pendant le festival, festival qui était donc en plein deuxième confinement, puisque c'était en novembre dernier, de réaliser toute la partie pour les enfants en digital. Nous avons appelé tous les écrivains et on leur a demandé de faire des animations pendant la période du festival pour les enfants. L'exposition Place to Be qu'on a installée, qui est une exposition de design que nous avions installée en juin 2020, nous avons proposé à tous les artistes de se filmer par Zoom et d'expliquer en fait ce qu'ils étaient en train de faire, pourquoi ils avaient fait ce projet, comment ils vivaient le confinement, etc. Donc, nous, en fait, on a toujours été présents, on a toujours été là. Moi-même, j'ai fait plein d'entretiens, j'ai répondu à plein de choses. On a fait des petits films aussi sur la fondation, à l'intérieur de la fondation, etc. pour rester vivant, pour rester là. Et puis, on a une boutique aussi en ligne. Donc, on a ouvert le Click and Collect pour notre boutique, qui est une boutique où nous vendons les œuvres et les objets de nos artistes et de nos artisans en résidence. Voilà, donc on est présent toujours. Je pense qu'on n'a jamais été presque finalement aussi présent sur les réseaux. On a fait plein de petites stories pour rester vivant. On a aussi continué notre programme de yoga en ligne, puisque la Fondation Martel accueille 3 cours de yoga par semaine. Et en présentiel, on a continué La Ruche qui dit oui. On a fait en sorte d'être là, d'être présent.
Très bien. Comment utilisez-vous les réseaux sociaux au sein de la Fondation ?
Alors, on utilise les réseaux sociaux en par plusieurs biais. Donc, on a un site internet, on a un Instagram, évidemment, on a un compte Twitter. On fait plein de stories tout le temps, chaque événement, chaque moment, chaque présence d'artiste. On filme tous les artistes en résidence, on fait des courts films de une minute et quelques secondes, pour que les gens comprennent en fait quels sont les artistes qui viennent ici, pourquoi ils sont là. Donc, c'est un dialogue croisé entre l'artisan qui est là et l'artiste qui est invité. Qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On a Instagram TV, qui est un format que nous apprécions car il nous permet de partager des belles histoires. On a une audience qui est plutôt engagée, c'est-à-dire qu'on a des visiteurs, des internautes de nos réseaux sociaux qui sont très fidèles. Donc, ça, c'est vraiment important. On est très likés. Parce que je pense que la façon dont on anime aussi nos petites stories sont très marrantes. Donc, les gens aiment bien. Et puis, grâce aux artistes que nous invitons qui viennent, même pendant la pandémie, on a eu des artistes de Sud-Afrique, on a eu des artistes chinois, on a eu des artistes belges, des artistes français aussi. Évidemment, on leur propose de faire en sorte de partager leurs émotions digitales avec leurs likers. Et donc, quand ils sont évidemment à la Fondation Martel, ça crée, évidemment, ça amplifie le réseau. On a accueilli quand même 30 personnes l'année dernière, plus nos artistes de Places to Be, qui sont 14 artistes internationaux. Donc ça nous permet aussi de déployer au niveau mondial, finalement, notre réseau. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est à travers nos propres activités et, heureusement, à travers l'activité des artistes en résidence. Et puis, en 2018, on avait reçu Adrien M et Claire B, qui sont des artistes digitaux. C'est l'exposition que vous aviez vue, L'ombre de la vapeur, qui, par chance, a été programmée à la Gaîté Lyrique pendant un certain nombre de mois. Bon, malheureusement, c'était pendant un peu la pandémie, mais il y a eu quand même 53 000 visiteurs à Paris pendant la présentation de cette exposition. Et ça a fait évidemment boule de neige, puisque la Fondation était systématiquement citée. Donc, on a en fait plusieurs façons de rester présent sur les réseaux sociaux.
Est-ce que le digital, c'est pour vous une manière de séduire des publics plus jeunes ?
Alors, le digital, c'est par… disons qu'il y a, je dirais qu'il y a un avant-confinement et un après-confinement avec le digital. J'aurais peut-être pas répondu de la même manière il y a 2 ans. Je pense que le digital était il y a 2 ans quelque chose qui était, c'est vrai, peut-être réservé à une génération plus jeune. Depuis la pandémie, je ne crois pas. C'est-à-dire que tout le monde s'est mis au digital parce que c'était une façon aussi de voir des choses, de continuer à être connecté au monde, que ça soit le monde culturel ou un autre monde. Et je crois aujourd'hui que c'est complètement transgénérationnel. Tout le monde s'y est mis. Je vois par rapport à notre Facebook notamment, l'âge aussi des gens qui peuvent nous suivre et nous liker. Aujourd'hui, je ne pense pas que ça atteigne plus les cinquantenaires que les gens qui ont 14 ans. Encore une fois, ça dépend de notre programme. Là, on est en train de mettre en place notre festival Métamusique. C'est un festival qui est notamment dédié à un très jeune public. On voit bien que là, il y a des choses nouvelles qui se passent. En fait, c'est en fonction de la programmation que l'on peut voir qu'au niveau des réceptions digitales, les choses changent un peu. Mais honnêtement, aujourd'hui, c'est plus, pour moi, ce n'est plus une question depuis la pandémie parce que tout le monde s'y est mis. Enfin, on n'a pas le choix. D'ailleurs, là, actuellement, vous n'êtes pas avec moi à Cognac, vous êtes en Zoom. Le Zoom, aujourd'hui, c'est je ne sais pas, moi, c'est le coup de fil d'hier, en fait. On ne s'appelle même plus au téléphone, on se fait un Zoom parce qu'on a besoin de se voir, on a besoin de se reconnaître aussi physiquement. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui est venu avec la pandémie et je pense que ça va durer. Après, la chose qui, moi, me ferait peur et que je vais combattre, c'est que, et c'est dans tout le monde du spectacle vivant, du cinéma et de l'art en général, des arts en général, c'est qu'il faut faire venir à nouveau notre public dans notre lieu. Parce que comme un spectacle de danse ou un spectacle de théâtre, je pense que, ou un concert, un festival, la présence en fait de l'artiste, la présence de l'œuvre, ce que dégage l'œuvre ou l'artiste dans sa performance, ça ne peut pas se faire digitalement. C'est impossible. Il faut être là. Il faut être en présence de la sueur. Il faut être en présence de l'énergie. Il faut être en présence des sourires. Il faut être en présence de la portée de la voix quand c'est un concert. Il faut qu'il y ait de nouveau, je crois, cet assemblage entre la personne et le public, entre le musicien et son public, entre le danseur et son public. C'est très important. Donc, j'espère que le digital ne va pas supprimer ça, mais au contraire, va encourager les gens à voir peut-être des teasers en digitaux et ensuite de venir dans les... Voilà, c'est ce que je souhaite en tout cas.
Génial. On va rentrer un peu plus dans la fondation. Vous mêlez savoir, faire et installation immersive. Comment faites-vous cohabiter tous ces éléments qui sont a priori antagonistes ?
Alors, ils semblent antagonistes, mais étant donné que nous avons un immense bâtiment et extrêmement pratique, au rez-de-chaussée, nous avons les expositions, les grandes, qu'on appelle les grandes expositions parce qu'on a un espace qui fait 900 mètres carrés. Juste au-dessus, nous avons les ateliers du fer. Et nous proposons plus largement possible aux artistes qui viennent créer les expositions chez nous, de fabriquer en fait leurs œuvres dans nos ateliers. Donc cette année, nous avons ouvert, enfin en 2019, nous avons ouvert les ateliers du fer. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, des ateliers vraiment tournés autour de certains savoir-faire ancestraux. L'année prochaine, en avril 22, on va ouvrir les ateliers du savoir. Les ateliers du savoir sont des ateliers dédiés aux nouvelles technologies et à la réalité virtuelle. Nous créons cette scène qui est sur 700 mètres carrés avec Small Studio, qui est une agence parisienne que vous connaissez peut-être, spécialise dans la réalité virtuelle, et Magélis, qui est une agence régionale qui est basée à Angoulême. Donc, faire savoir, savoir-faire, c'est un petit peu notre façon d'imaginer en fait que notre écosystème créatif que nous sommes en train de créer va fonctionner avec les artistes que nous allons inviter, que ce soit des artisans en céramique, des souffleurs de verre, des artistes digitaux ou des designers ou des plasticiens ou des musiciens, des chorégraphes. Voilà, c'est l'économie que nous créons ici, c'est une économie qui, d'un niveau à l'autre, va se retrouver et va se compléter et va se nourrir. C'est une économie circulaire, comme on l'appelle aujourd'hui, qui nous permet vraiment d'accueillir des formes artistiques très différentes, parce que ces formes artistiques, elles vont trouver en fait les moyens de créer leurs projets et leurs œuvres directement ici. Ce n'est pas la peine d'aller ailleurs, tout se passera ici.
Pouvez-vous nous parler des résidences d'artistes ?
Oui.
Parce que vous avez plusieurs artistes en résidence.
Alors, les résidences artistiques sont des résidences croisées, artistes-artisans. Dans les ateliers du fer, donc encore une fois, composés de 5 métiers ancestraux. Ces résidents, jusqu'à présent, c'est moi qui les programmais, donc j'ai essayé de faire venir des gens du monde entier, mais nous avons ouvert les ateliers en novembre 19 et nous les avons fermés en février 2020 pour les rouvrir ensuite plus tardivement à cause du Covid. Donc c'était un peu chaotique. Mais on a quand même réussi à finalement accueillir 30 artistes cette année avec des productions très diverses, mêlant plusieurs savoir-faire. Hein, le textile, le bois, encore une fois, le soufflage de verre et par exemple la céramique, le textile et le soufflage de verre également, résidences qui vont arriver maintenant jusqu'à la fin du mois de juillet 2021. Ensuite, L'année prochaine, nous aurons donc les ateliers du savoir sur les nouvelles technologies. Et là, on crée un hub avec aussi des artistes donc digitaux qui travaillent plutôt dans le cadre de réalisation en réalité virtuelle ou dans le gaming, puisqu'on est très intéressé aussi par les jeux vidéo. Et donc, il y aura des interactions certainement entre les ateliers du faire et les ateliers du savoir. Mais ça, je pourrais vous le dire l'année prochaine quand ça aura commencé. Mais l'idée, effectivement, c'est interagir entre les étages pour que chaque artiste, chaque personnalité invitée puisse trouver une façon, en fait, de réaliser son projet ici.
Vous impliquez beaucoup le digital et les nouvelles technologies, tout ce qui est installation numérique, vous me parlez de jeux vidéo, etc. Est-ce que c'est une nouvelle manière de voir l'art à travers ces outils ?
Alors, ce qui est nouveau, c'est pas tant de mettre, puisqu'on a vu, il y a quand même des établissements déjà qui ont été un petit peu pionniers dans ces cercles du digital, évidemment, la Gaîté Lyrique. Je pense aussi au lieu, là j'oublie son nom, qui est à Issy-les-Moulineaux, le Cube, ça s'appelle, je crois, qui est vraiment un pionnier. Il y a aussi le Frénois comme école qui a vraiment été aussi pionnière dans l'appropriation par les étudiants post-diplôme des nouvelles technologies. Nous, ce qui diffère, je pense, des autres établissements, c'est que l'on propose simultanément de travailler, de composer, d'expérimenter les nouvelles technologies, mais aussi des savoir-faire très artisanaux, encore une fois, la céramique, le verre, le bois, et de mêler tout ça. C'est-à-dire que des gens qui viennent, soi-disant pour être sur leur ordinateur, à créer des histoires et des images et des films pendant un mois, eh ben, ils pourront juste descendre d'un étage, prendre un café avec un souffleur de verre. Et on espère, et je sais que ça va marcher, que cette interaction entre des métiers qui normalement n'ont rien à voir les uns avec les autres peuvent au contraire trouver une finalité artistique, qu'elle soit numérique ou en céramique. Je pense que les choses vont pouvoir s'imbriquer. Par exemple, nous avons quand même acheté une imprimante 3D céramique d'un artiste céramiste et qui est en même temps ingénieur qui s'appelle Olivier Van Herpt, qui est un artiste de Eindhoven. Et nous avons donc actuellement dans les ateliers céramiques une imprimante 3D qui vous imprime des objets qui peuvent faire jusqu'à 1 mètre de haut. On est 2 en France à avoir cette machine. Il y a le 8 Fab Lab de Cray qui possède aussi cette machine. Donc voilà, nous, on n'est pas arrêté à la céramique avec le petit objet, je ne sais pas, la tasse ou le vase. Hein. Ce n'est pas du tout notre façon de fonctionner. Là encore, on pousse, on repousse en fait les limites de ces métiers ancestraux pour aller justement dans notre temps. Je veux dire, on est en 2021, on n'est pas en 1880. On est en 2021, on doit aussi pousser ces choses-là qui sont des instruments en fait très technologiques au service d'artistes et d'artisans qui ont envie aussi de pousser les limites de leurs propres travaux.
Très bien. On parle d'installations immersives et d'œuvres interactives chez vous. Comment les choisissez-vous et qu'est-ce qu'une bonne œuvre immersive ?
Ça, c'est la question piège. Alors, moi, je ne sais pas s'il y a des bonnes œuvres immersives ou des mauvaises œuvres. En fait, notre projet ici, c'est plutôt que de demander à des artistes de faire des œuvres immersives, c'est plutôt de réaliser des projets qui permettent aux gens de se sentir à l'intérieur des œuvres. C'est-à-dire, je ne souhaite pas organiser des projets avec des artistes ou des œuvres qui feraient autorité sur le public. Moi, je souhaite que les gens se sentent bien ici, sentent qu'ils sont chez eux, qui pourraient même finalement accueillir des telles œuvres dans leur propre maison. Et donc, je souhaite que les gens soient immergés. C'est pas tellement que je suis intéressée par les œuvres immersives, mais c'est plutôt mes visiteurs. J'aimerais que mes visiteurs accèdent au fait qu'ils se sentent complètement à l'intérieur de l'espace de l'œuvre, en fait. Voilà, qu'il n'y ait pas un gap entre eux et l'œuvre, qu'ils se sentent vraiment impliqués, qu'ils se sentent même acteurs. Par exemple, pour L'ombre de la vapeur d'Adrien M et Claire B, les visiteurs étaient les propres acteurs de l'œuvre. L'œuvre avait sa propre vie, une vie autonome, une vie de base, mais à partir du moment où le visiteur rentrait dans l'œuvre, cette œuvre commençait à s'animer, à bouger, à suivre le spectateur. Donc le spectateur était l'acteur et le chorégraphe et le danseur de l'œuvre. C'est en ce sens que je travaille plutôt dans l'immersion, mais je ne commande pas des œuvres immersives.
Très bien. Il y a un sujet extrêmement à la mode et extrêmement polémique que je suis obligé de vous poser. Et je suis curieux d'avoir votre opinion. On a eu dans nos différents podcasts des opinions très, très tranchées et très opposées. Que pensez-vous des NFT ?
La technologie NFT. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire jeton non-fungible, c'est ça. Oui. Peut-être que c'est assez utile dans le cadre d'œuvres numériques, hein, puisque cette signature numérique permet de garantir l'authenticité d'une œuvre virtuelle quand même, hein, c'est important. Cela dit, c'est comme un peu les bitcoins, etc. Il y a des spéculations qui se font par rapport à ça, et je pense pas que ça puisse tenir dans le temps. C'est-à-dire qu'il fallait bien que les artistes numériques signent leur œuvre. Je pense que c'est nécessaire. Tous les artistes doivent pouvoir signer leur œuvre pour qu'il n'y ait pas de, comment dire, de plagiat même. À ce niveau-là, on voit encore, il y a pas mal de polémiques actuellement sur des plagiats dans le cirque contemporain, par exemple. Difficile de signer un mouvement, difficile de signer même une partie d'une chorégraphie. Je pense que le numérique fait partie aussi de ces arts qui sont quand même aujourd'hui, c'est la toile, le monde entier a accès à la toile. Difficile de signer une œuvre numérique, mais il faut trouver le moyen, parce que je pense que la protection intellectuelle, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour l'artiste, parce que d'abord, c'est sa façon à lui d'être rémunéré quand même, donc il faut bien qu'il en vive. Après, le fait qu'on ait toutes ces images sur la toile, tous ces films, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir de l'authenticité. Et je crois que là, on est arrivé, et peut-être encore pour 5 ans, je pense, à quelque chose qui va aller très, très, très loin dans la reproduction, en fait, des choses que l'on peut voir un peu partout. Quand on regarde Internet, on a l'impression d'avoir vu déjà la même image 100 000 fois. Là, je pense qu'on va arriver, peut-être 5 ans, c'est peut-être beaucoup, mais peut-être 3 ans, à un espèce d'effet en fait entonnoir où on va avoir eu tellement, tellement, tellement d'images qui se ressemblent que ça va se resserrer dans un tout petit tube et qui va en ressortir des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus originales. Là, on est dans une frénésie en fait du monde digital qui ne cesse de donner des perspectives nouvelles. Mais je pense que c'est en train un petit peu de se resserrer et qu'au bout d'un moment, on va voir les vrais créateurs, ceux qui vont pouvoir surtout tenir dans le temps. Vous savez, c'est comme l'art pictural. Hein. Un artiste est valable quand il arrive à faire toute sa carrière dans l'œuvre qu'il a commencé à réaliser, en fait. Pour les artistes digitaux, à mon avis, ça sera la même chose. Il faut tenir dans le temps. C'est ce qui fait qu'un artiste est valable ou pas. C'est mon point de vue, en tout cas.
Merci beaucoup. Merci déjà pour ces entretiens extrêmement intéressants. On va parler maintenant, on va se projeter un peu. Quelles sont les actualités de la Fondation Martel sur ces prochains
Alors,
mois et
années ? Les actualités, c'est déjà la réouverture magnifique, heureusement, d'aujourd'hui. Donc, c'est une date qui ne va jamais s'oublier. On est le 20 mai 2021 et toutes les institutions culturelles sont ouvertes. Donc vraiment, je ne sais pas qui il faudrait remercier dans ce monde pour qu'on ait enfin la possibilité de retourner au cinéma, voir des spectacles de danse, et écouter des concerts et voir des spectacles de théâtre et des expositions. Mais en tout cas, merci. Donc déjà, ça, c'est un premier point très important pour nous. C'est notre actualité aujourd'hui et de ce week-end. L'actualité prochaine, c'est notre festival Métamusique. Métamusique, c'est un festival qui fait la part belle entre des musiques folkloriques de Nouvelle-Aquitaine et des musiques savantes. C'est 72 heures de musique, non-stop pratiquement. Avec le couvre-feu, bon, ça complique un peu les 72 heures, mais on va essayer de commencer à 8 heures du matin. Donc, on pourra avoir des concerts de musique à 8 heures du matin avec des artistes vraiment très diverses. On a aussi un gros pôle pour les enfants qui s'appelle le Meta Kids, où par exemple cette année, les enfants pourront souffler des objets en verre qui seront donc des instruments de musique ou en céramique ou en bois et pourront fabriquer leurs propres instruments de musique. Ça, c'est une nouveauté grâce à nos ateliers. Ensuite, le 10 juillet prochain, on a le Songe Electro. On avait initié la Boom Electro il y a 2 ans. Donc, c'était un festival, une soirée en fait qui clôturait un festival qui a ici à Cognac qui s'appelle Blues Passion, et on clôturait avec une grosse, grosse fête jusqu'à 4 heures du matin de techno. Cette année, avec les restrictions sanitaires, la Boom Electro se transforme en Songe Electro avec deux DJ magnifiques, Molody, qui est un musicien de Sud-Afrique, et Louise Chen, donc qui est franco-chinoise et qui est aussi une DJ qui monte. Et donc, on va s'asseoir tranquillement et on va écouter une musique, comme a dit Molody, thérapeutique, qui va nous faire du bien. Et puis, nous avons ouvert donc hier l'exposition Beauty, qui est une exposition de deux artistes, une New-Yorkaise et un Autrichien qui vit à New York, donc Segmaster et une Walsh, sur la beauté. Donc, cette exposition s'appelle Beauty et elle développe sur deux étages de la Fondation des interactions entre la beauté et la fonction de la beauté. Voilà, donc ça, c'est notre année. Cette exposition aura lieu jusqu'à la fin du mois de décembre. Et on reprend Places to Be, l'exposition de 14 designers internationaux que nous avions ouverte le 26 juin 2020, donc entre deux confinements, qui n'a été que très peu exploitée. Donc, on a décidé de la reprendre cette année. Et à partir de janvier 2022, je consacre toute l'année 22 au corps, à travers les sens. Voilà, donc je suis en train de travailler sur une exposition où cette personnalité viendront s'exprimer autour des sens de l'ouïe, de l'odorat, du goût, du toucher et du corps en général.
Merci beaucoup pour cet entretien, c'était extrêmement intéressant. Vous avez un thème super intéressant. La fondation est vraiment, vraiment très belle. Je vous encourage tous à aller la voir. J'ai eu la chance de pouvoir la visiter à de nombreuses reprises et à chaque fois, il y a des belles surprises. Et notamment l'exposition Places to Be que j'avais vue et qui est vraiment, vraiment très sympa. Merci et à bientôt.
Super. Venez à la Fondation.
Voilà, l'épisode est fini. J'espère qu'il vous a plu. Merci de l'avoir écouté. Vous trouverez toutes les notes de l'émission sur le site numar.fr. N'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux sociaux et plus particulièrement sur LinkedIn et Instagram. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous avez aimé et que vous souhaitez nous aider, nous serions très contents que vous nous laissiez une note et un commentaire sur vos plateformes de podcast préférées. Cela nous permettra d'avoir plus de visibilité. Merci encore et à très bientôt pour un prochain épisode.